désindustrialisation française.
Immigration
et préservation de l'environnement.
C'est la laïcité.
Système éducatif.
Croissance économique.
La République.
Du développement durable.
Le patriarcat.
La politique économique.
La réflexion sur l'urbanisme.
Vive la République. Vive la France.
Peut-on encore débattre en politique ?
Que veut dire aujourd'hui être de gauche ?
Et surtout, pourquoi ne pas explorer de nouvelles solutions ?
Je suis Lucie Casté, fonctionnaire spécialiste des questions économiques.
Je suis Saïd Benmoufok, professeur de philosophie, spécialisé dans les questions d'éducation.
Je suis Belir Nabli, professeur de droit public et essayiste.
Depuis quelques années, nous avons vu la pensée néolibérale envahir le discours médiatique. La gauche se dissoudre dans des concepts flous, des mots troubles.
Avec ce podcast, nous voulons remettre au centre du débat les fondements de la pensée de gauche, en allant à la rencontre de grands spécialistes qui portent une idée forte, une solution concrète à mettre en place.
Parce que la gauche n'est pas qu'une force d'opposition.
Bienvenue dans « On n'a pas tout essayé », un podcast proposé par l'Obs.
Véritable passion française, la laïcité est considérée comme l'une des pierres angulaires du pacte républicain. La loi de 1905 consacre ainsi un principe de séparation des églises et de l'État, un principe qui signifie la neutralité confessionnelle de l'État, mais aussi la garantie des libertés de conscience et de religion, ainsi que l'égalité des droits. Près d'un siècle plus tard, la question de la laïcité a ressurgi avec force, sur fond de panique morale et identitaire suscitée par la visibilisation de la présence musulmane en France. Pour nous éclairer, nous avons invité Stéphanie Hennette Vaucher, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France et qui vient de signer deux livres qui concernent précisément notre sujet. Le premier s'intitule tout simplement « Laïcité », il est publié chez Anna Moza dans la collection « Le mot est faible ». L'autre ouvrage porte sur « L'école et la République », La nouvelle laïcité scolaire. Il est publié chez Dalloz. Stéphanie Hennette Vaucher, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer notre échange, une question assez simple. D'où vient cet intérêt pour la laïcité ? Et finalement, quelle est votre définition de ce principe ?
Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. L'intérêt pour la laïcité, en ce qui me concerne, dans mon parcours de recherche, il vient de manière un peu étrange, d'une perspective extérieure, étrangère. C'est en réalité... le constat depuis une quinzaine d'années que les réponses françaises qui sont apportées à des problèmes liés à la pluralisation du fait religieux sont souvent perçues à l'étranger comme étant spécifiques, comme étant parfois problématiques. Et c'est véritablement en fait à partir d'une impression d'un traitement très différent des questions soulevées par le pluralisme religieux dans les différents états, disons, du monde occidental élargi, que j'ai commencé à m'intéresser à cette question.
Et est-ce que vous avez l'impression, avec le recul, qu'il existe une exception française en la matière ?
Alors, il existe assurément une spécificité française qui est d'abord d'avoir ancré le mot de laïcité au cœur du débat public et au cœur, en réalité, du pacte constitutionnel. Le terme de laïcité figure aujourd'hui dans la Constitution et de manière plus générale, on considère depuis la loi de 1905, même si la loi n'utilise pas le terme, qu'on vit dans un régime de laïcité. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de spécifique ? Parce qu'il y a effectivement une histoire qui a pu être à certains moments douloureuse du cheminement et puis de la séparation entre l'Église catholique et l'État français qui, comme toutes les histoires nationales, est une histoire spécifique. Est-ce que c'est une singularité ou une exception française ? À part cette trajectoire historique un petit peu particulière, je crois qu'aujourd'hui, ce qui singularise et ce qui attire beaucoup le regard à l'étranger, c'est véritablement les itérations contemporaines du principe de laïcité et la manière dont la laïcité peut être présentée comme étant en réalité l'antonyme de la liberté religieuse, voire comme étant un moyen de lutter contre les manifestations publiques de la religion. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une manière dont il est parfois parlé de la laïcité dans le débat public. Et là, c'est quelque chose qui est en effet qui singularise considérablement l'expérience française, ne serait-ce que parce que dans l'essentiel du monde occidental, il y a, par les traditions constitutionnelles, par euh, l'héritage de 50 ans de droit international des droits de l'homme, un attachement à la liberté religieuse qui comprend le droit de manifester en public et en privé, de manière individuelle ou collective, ses croyances. Et donc, effectivement, il y a une sorte de hiatus entre, d'une part, un durcissement du débat public sur la laïcité qui tend à le rabattre sur des exigences de neutralité qui, désormais, tentent à être imposées aux personnes privées, allant un peu vers une forme d'asepsie de certains espaces sociaux. La tradition de la laïcité qui s'est enracinée dans le XXe siècle, qui s'est conjuguée avec le droit international des droits de l'homme et qui, au contraire, fait une place à la liberté religieuse, qu'elle soit individuelle ou collective.
Donc pour comprendre ces tendances historiques, comme vous venez de le dire, à l'aseptisation, il faut peut-être en revenir à ce à quoi on associe spontanément la laïcité en France, c'est-à-dire la loi de 1905. Parfois même on réduit l'idée de laïcité à 1905 comme une espèce de totem qu'il a défini, à laquelle on pense pouvoir la réduire. Mais justement, quelle est la conception de la laïcité qu'on peut trouver dans la loi de 1905, loi dans laquelle, vous venez de le rappeler également, le mot laïcité ne figure pas?
Alors la loi de 1905, dans la compréhension que j'en ai, on peut la résumer en trois grands principes. Le premier, c'est le titre de la loi, c'est la loi relative à la séparation des églises et de l'État. On sépare les églises et l'État. L'État n'a pas de confession et l'Église n'a pas à dicter le fonctionnement des institutions ou le contenu de la législation. À côté de la séparation, il y a un deuxième principe qui est très important, qui est celui de la neutralité religieuse de l'État. La neutralité religieuse de l'État, on peut le déduire de l'article 2 de la loi de 1905, au terme duquel la République ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. Et donc, d'une certaine manière, c'est une exigence pour l'État de maintenir toutes les religions à égale distance et de ne manifester de préférence, d'attachement ou de soutien pour aucune d'entre elles. Donc, neutralité de l'État, c'est-à-dire qu'en fait, l'État, dans la manière dont il s'incarne, que ce soit les bâtiments, les fonctionnaires ou les agents publics, doit apparaître comme étant absolument neutre du point de vue religieux. Le troisième principe, c'est le principe de la garantie. Le principe de la garantie de la liberté de culte, et ça c'est l'article premier de la loi de 1905 qui affirme la République garantit le libre exercice du culte. Et je crois que séparation, garantie, neutralité, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler les trois pôles du triangle de sens que forme la laïcité et que aucun de ces trois pôles ne doit prendre le pas sur les autres.
Est-ce qu'on peut, à partir de là, se demander s'il y a eu une évolution de ces grands principes? Est-ce qu'on a ajouté d'autres éléments, retiré éventuellement des éléments à l'idée de la laïcité en France? Je pense notamment à ce que disait Jean Bobéro, historien spécialiste de la laïcité, qui disait « Mais moi, quand j'ai commencé à étudier la laïcité, quand je m'y suis intéressé dans les années 70, c'était une question qui était réglée. » Et ensuite, c'est revenu sur le devant du débat public, sur le devant de la scène, avec des nouvelles conceptions. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ces nouvelles formes de pensée laïque ou de nouvelles représentations de la laïcité?
Que vous appelez ou que vous qualifiez de nouvelle laïcité?
Alors, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le mot laïcité, au fil du temps, est utilisé pour désigner des problèmes publics qui sont différents. On peut dire, d'une certaine manière, que, par exemple, dans le 19e siècle ou le début du 20e siècle, la laïcité, c'est un mot qui permet de parler de ce qu'on appelait la guerre des deux Frances, qui est vraiment un opérateur du conflit entre la République et l'Église catholique. Plus tard, dans les années de l'après-Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le mot laïcité, il va beaucoup être utilisé pour parler de la guerre scolaire. C'est plus la guerre des deux Frances, c'est la guerre scolaire. C'est comment est-ce que on pense les relations entre l'État et l'enseignement confessionnel, étant entendu que pendant très longtemps, hein, c'est vraiment l'Église catholique qui a eu la mainmise sur l'enseignement en France. Et depuis la fin des années 80, et plus encore depuis le début du 21e siècle, le mot laïcité, il sert à désigner désormais quelque chose qui est bien différent, qui est en fait véritablement toute une série d'anxiétés qui sont liées à la visibilisation du fait religieux dans toute une série d'espaces sociaux, que ce soit l'école, le travail, l'espace public, etc. Alors moi, effectivement, j'aime bien parler, pour désigner ce qui se passe depuis le début du 21e siècle, de nouvelle laïcité, parce qu'il me semble que le point de bascule qui est très important, c'est précisément ce qui se passe autour de ce pôle neutralité de la laïcité. Il me semble que sur l'essentiel du XXe siècle, la neutralité dont on parle quand on parle de laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État, c'est la neutralité des autorités publiques, de la puissance publique.
C'est-à-dire des enseignants, des fonctionnaires,
des bâtiments,
des représentants, oui.
Et effectivement, depuis le début du XXIe siècle, il s'est passé un basculement très important, qui est qu'on se met à déduire des obligations de neutralité religieuse du principe de laïcité, qui pèsent non plus sur les personnes publiques, mais sur les personnes privées. Le premier temps de cette évolution, c'est la loi du 15 mars 2004, qui interdit aux élèves de l'enseignement public de porter des tenues par lesquelles ils manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses. C'est la première catégorie de personnes privées, d'individus, qui sont soumises à des obligations de discrétion, sinon de neutralité religieuse, au nom de la laïcité.
Et qui ne sont pas des représentants de l'État.
Ils ne sont pas du tout des représentants de l'État. Et d'ailleurs, entre 1989, les premières grandes affaires du voile, et 2004, le juge administratif, de manière répétée, dit, en fait, on ne peut pas soumettre les élèves de l'enseignement public à des obligations de neutralité religieuse, précisément parce que seuls sont soumis à des obligations de neutralité les fonctionnaires et les agents publics. Les usagers, en revanche, que sont les élèves, ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité. Et ils ne peuvent l'être que, éventuellement, sur un tout autre fondement, qui est, le cas échéant, l'apparition de troubles à l'ordre public à l'intérieur d'un établissement scolaire, mais qui ne saurait être généré par le seul port d'un signe religieux. Et ce qui est important, c'est qu'après la loi de 2004, cette idée que la laïcité pouvait générer des obligations de neutralité religieuse pesant sur les personnes privées tend à se diffuser au-delà de l'école. C'est-à-dire qu'on va se mettre à exiger cela peut-être des parents accompagnateurs de sortie scolaire, des stagiaires en formation professionnelle qui suivent des stages de formation au sein d'établissements publics. Puis on va avoir, à partir de 2008 et jusqu'à la loi de 2010 interdisant le port du voile intégral dans l'espace public, une rhétorique très forte qui véhicule l'idée que la religion étant une affaire privée, ces manifestations doivent être cantonnées aux espaces privés. Ce qui, évidemment, est en contrariété manifeste avec l'idée de liberté religieuse.
Alors justement, ça c'est passionnant, la distinction qui est apparue avec cette idée que la laïcité, c'est l'espace public et c'est le cantonnement des manifestations religieuses, le fait de la visibilité du religieux à l'espace privé. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément à ce moment-là par espace public et espace privé ? Est-ce que c'est l'enceinte de l'école pour la loi de 2004 ? Est-ce que c'est la rue de manière générale ? Est-ce que c'est les bâtiments publics ? Qu'est-ce qu'on entend par espace public, espace privé ? Il y a quelque chose d'assez qui me semble assez confus là-dedans.
Alors, c'est très intéressant parce que, à ma connaissance, la loi du 10 octobre 2010 relative à l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public a fourni la première définition juridique de l'espace public. C'est-à-dire qu'en fait, elle interdit le port du voile intégral dans l'espace public, mais en effet, comme vous le dites très bien, on ne sait pas ce que c'est que l'espace public. Donc en fait, pour les besoins de cette législation, on a créé une définition de l'espace public qui est précisée par des textes d'application de la loi de 2010 et qui vient désigner de manière assez imprécise les voies publiques, la rue, mais pas par exemple des allées à l'intérieur d'une copropriété. Enfin, donc on a quelque chose d'assez baroque et effectivement c'est une question qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'on va générer cette catégorie d'espace public pour les besoins de la loi.
Mais quand on dit donc la visibilité du religieux ne doit pas exister dans l'espace public, c'est une invention récente. C'est que c'est pas une, en tout cas, c'est pas une conception de la laïcité qui est contenue dans la loi de 1905 ou qui a été retenue au moment des débats autour de la loi de 1905.
Alors, d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que cette phrase « le religieux doit être cantonné à l'espace privé » est une phrase qu'on entend dans le débat public contemporain, mais n'est pas du tout une phrase qui décrit l'état du droit. Le droit n'interdit pas du tout la manifestation des croyances religieuses dans l'espace public. Seul est interdit dans l'espace public le port du voile intégral. C'est tout à fait spécifique et ça résulte de la loi de 1910. De manière générale...
De 2010, pardon.
De manière générale, la manifestation des croyances religieuses dans l'espace public est tout à fait permise et je dirais même qu'elle est protégée. Elle est garantie par la liberté religieuse qui, comme le dit la Convention européenne des droits de l'homme, inclut le droit de manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, ses croyances religieuses. Donc il n'y a pas... Cette idée d'un cantonnement du religieux dans l'espace privé est en fait une idée dont on peut débattre dans l'espace public, mais qui n'est pas du tout la description du droit.
Et pour en revenir à la loi de 2004 qui interdit la manifestation de signes religieux au sein de l'espace scolaire, de l'enceinte scolaire. C'est le cas pour, évidemment, les enseignants, c'était le cas depuis 1905, et même avant d'ailleurs, parce que l'école a été laïque avant la République, et pour les élèves, c'est le cas depuis 2004. Maintenant, c'est pas le cas dans l'enseignement supérieur, en université. On le sait, c'est d'ailleurs un débat qui revient régulièrement, faut-il interdire le voile à l'université ? Comment explique-t-on le fait que ça s'applique à des élèves dans le second degré ? Pourquoi pas à l'université ? Qu'est-ce qui explique cette différence ? Est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des majeurs d'un côté ou des mineurs de l'autre ? Mais pourtant, il y a des élèves en lycée qui sont majeurs aussi. Donc, quelle est la différence entre les deux ?
Alors, au moment des débats qui ont présidé à l'adoption de la loi de 2004, c'est effectivement celui-là, le critère qui est mis en avant. Comme la loi de 2004 est justifiée par ceux qui la portent par un objectif de protection et de faire de l'école et donc de l'expérience de ce que c'est que d'être un écolier, un collégien, un lycéen, de l'expérience d'une protection qui permet la liberté d'expérimenter, des pensées, d'être libre de toute forme de pression et de maintenir l'école comme un lieu où on peut aussi s'extraire de trajectoires familiales, culturelles, etc. Bon, ça, c'est la rhétorique qui a présidé à l'adoption de la loi de 2004. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de dire ce sont des enfants mineurs et ce critère-là nous permet en réalité de justifier un régime de protection qui, par hypothèse, ne se justifie plus pour les majeurs. Alors, vous avez raison, bien sûr, il y a des mineurs à l'université et il y a des majeurs au lycée, mais c'est suffisamment marginal pour que ça soit ça qui est véritablement sous-tendu la loi de 2004.
Alors, très bien, ça c'est très clair, mais alors si c'est un impératif de protection qui est à l'origine de cette loi, ou en tout cas une rhétorique de l'idée qu'il faut protéger des êtres mineurs parce qu'ils sont encore en construction et donc il faut les soustraire à des formes de pression qui seraient issues du milieu familial ou autre. Pourquoi ça s'applique aux enfants, aux mineurs, dans l'école publique et pas dans l'école privée ? Parce qu'on a quand même 20% des enfants en France qui sont dans l'école privée, et qui, sous contrat ou hors contrat, et qui, eux, ne sont pas protégés, en quelque sorte, par la loi. Si l'objectif, c'est de protéger les esprits mineurs en France. Mais pourquoi on s'arrête à ce moment-là aux portes de l'école privée ?
Alors, l'école privée a une histoire très singulière en France. L'école privée est essentiellement confessionnelle.
Oui, 98%
des établissements privés sont confessionnels. Et il se trouve que...
Confessionnels catholiques.
Et il se trouve que le régime juridique de l'enseignement privé est tout à fait dérogatoire, puisque précisément, les établissements privés ont le droit constitutionnel d'affirmer un caractère propre. Et comme on vient de le dire, ce caractère propre est, dans l'extraordinaire majorité des cas, confessionnel. Qu'est-ce que ça veut dire que les établissements privés ont le droit d'affirmer un caractère propre qui est confessionnel ? Ça veut dire que à l'intérieur de l'école privée, des signes religieux peuvent être présents, des manifestations religieuses peuvent avoir lieu, des rites peuvent être performés. De même, la direction de l'école peut, dans une certaine mesure, requérir une forme de loyauté des enseignants de l'école privée par rapport à l'éthos de l'établissement. La contrainte qui pèse sur les établissements privés lorsqu'en tout cas ils décident de passer un contrat avec l'État, c'est le respect des programmes scolaires d'une part, et d'autre part, le respect de l'interdiction de discriminer sur le fondement de la religion dans les élèves qu'ils accueillent. Donc il y a effectivement ce statut tout à fait particulier qui date d'une loi Debré du 31 décembre 1959 qui permet à l'enseignement privé d'affirmer cette dimension confessionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la loi de 2004, la question s'est posée de savoir s'il fallait étendre l'obligation de discrétion de neutralité religieuse aux élèves de l'enseignement privé. Le choix a été fait de ne pas le faire, d'abord parce que il faut bien dire que ça aurait été quelque peu contradictoire, d'un côté, d'organiser la garantie constitutionnelle du droit des établissements privés à affirmer un caractère propre religieux, et d'autre part, de soumettre les élèves à une obligation de neutralité religieuse. Donc il y avait cette contradiction. Il y a un autre élément qui est très intéressant et qui ressort des travaux, notamment au sein de la commission Stasi, ou de différentes prises de position de certains de ses membres. Une autre des raisons pour lesquelles la loi de 2004 ne s'applique pas, c'est que l'enseignement privé, en tant qu'il permet l'expression des croyances religieuses, ou en tout cas qu'il ne l'interdit pas, et en tant qu'il ne peut pas refuser des élèves sur le fondement de la religion, devenait d'une certaine manière un échappatoire pour ceux des élèves qui se verraient contraints de quitter l'enseignement public à raison du nouveau régime de laïcité scolaire.
Mais donc, on a affaire à une forme de contradiction dans les arguments avancés. Parce qu'on dit, il est impératif, nécessaire que la République protège ses enfants de la pression religieuse, mais on laisse aux parents la possibilité quand même de s'y soustraire en envoyant leurs enfants dans le privé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est contradictoire dans les termes.
C'est la raison pour laquelle je crois que c'est très intéressant de travailler ensemble sur l'école publique et l'école privée pour comprendre la laïcité et pour mettre le doigt sur ces différentes tensions. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ce statut de l'enseignement privé, il date, comme je l'ai dit, d'une loi de 1959. Quelle est la situation de l'enseignement privé qui, alors là, est pratiquement à 100% catholique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? L'enseignement privé est exsangue. Il y a un premier mouvement de déconfessionnalisation, il y a un appauvrissement des écoles privées, il y a une jeune historienne qui s'appelle Sarah Teinturier qui a fait une thèse remarquable sur l'enseignement privé catholique entre deux guerres et qui montre bien que au lendemain de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des écoles privées dans lesquelles ce sont les enseignants qui apportent eux-mêmes le bois pour le chauffage. Et ce qui se passe, c'est que dans le même moment, il y a une augmentation du nombre d'élèves puisqu'il y a une évolution démographique. La Constitution de la 4e République garantit le droit à l'instruction. Et donc, en fait, la loi de 1959 est un double pari gagnant, puisque pour l'enseignement privé, c'est la possibilité d'obtenir des fonds publics, puisque le contrat d'association avec l'État va permettre la prise en charge du traitement des enseignants et des dépenses de fonctionnement. Et pour l'enseignement public, ça permet d'une certaine manière d'accueillir une population qui est grandissante, une population scolaire qui est grandissante. Donc en fait, la loi de 1959, c'est une forme de faveur faite à l'enseignement catholique et d'une certaine manière, c'est une manière pour la République d'offrir un régime d'accommodement de la religion au cœur du pacte constitutionnel. Et en réalité, la loi de 2004, elle intervient dans un contexte qui est complètement différent. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des contradictions que vous soulevez entre l'existence de l'enseignement privé et le régime juridique qui est le sien, et puis la nouvelle manière dont on va se mettre à parler de la laïcité à partir du début du XXIe siècle. Et donc, effectivement, regarder ensemble l'école publique et l'école privée pour comprendre la laïcité, ça permet véritablement de mettre le doigt sur ces tensions.
Il y a quand même un contraste entre les accommodements que vous venez de rappeler et de l'autre, une forme de rigidité, notamment exprimée par une série de lois et exprimée par un certain nombre de responsables politiques au sujet de la visibilité de la présence musulmane dans la société française contemporaine. Et je voulais vous écouter sur ce contraste-là et ce qu'il pouvait signifier.
Si je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur cette laïcité qui peut se comprendre comme un principe, comme un triangle de signification dont les trois pôles seraient garantie, neutralité et séparation, je crois que ce sur quoi porte votre question, c'est d'une certaine manière un oubli du principe de garantie, un oubli de ce principe affirmé à l'article 1er de la loi de 1905 qui est que la République garantit le libre exercice du culte. Si on se place dans cette optique, si on essaye de chercher dans le droit contemporain les manifestations concrètes de cette phrase, la République garantit le libre exercice du culte, on voit que dans toute une série de moments, cela a nécessité effectivement ce qu'on pourrait appeler, si ce terme n'était pas de nature à générer aussitôt des anxiétés, des accommodements de la religion.
Qu'est-ce qu'on appelle le libre exercice du culte? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le fait d'accéder à des édifices du culte, c'est le fait de pouvoir s'y rendre en toute liberté, c'est éventuellement la liberté de manifester par des vêtements, par des rites, ses croyances religieuses. C'est ce qu'on pourrait appeler la liberté religieuse.
Qui connaît des limites, en fait, et on entend plus parler de ces limites que du principe qui est un principe libéral, celui de la liberté religieuse.
Qui est un principe libéral et qui, historiquement, a justifié toutes sortes de solutions, comme par exemple des textes que l'on trouve, par exemple, publiés au Bulletin officiel de l'Éducation nationale dans les années 80, qui recommandent que pour les repas pris dans les cantines scolaires, il soit tenu compte des habitudes et des préférences familiales des élèves, qui permettent, par exemple, comme l'indique le Code rural, le fait qu'on puisse permettre des pratiques spécifiques pour permettre l'abattage rituel, qui permettent dans l'organisation du droit funéraire que d'une certaine manière soit accommodée la possibilité de faire des carrés confessionnels pour ne pas heurter certaines sensibilités religieuses, toutes sortes de choses, ou qui permet par exemple le financement des écoles privées à caractère confessionnel. Je crois qu'on a là toute une série d'exemples qui montrent que assez loin d'un discours qu'on essaye de présenter comme étant évident et comme étant absolu, la République a su, sur une multiplicité de sujets au fil du temps, démontrer que le principe d'égalité nécessitait parfois une souplesse de l'interprétation du texte. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on a bien souvent dans le débat public cette idée que la tradition républicaine, la tradition politique et juridique de la République, c'est la loi doit être la même pour tous, mais surtout elle doit toujours être absolument la même pour tous, et tout manquement à cette rigide universalité serait un manquement à la tradition républicaine. Et je trouve que c'est assez intéressant, face à ce discours-là, de dire que, en fait, c'est pas exactement une description fidèle de ce qui s'est fait au fil des années, sans véritablement susciter de polémique.
Précisément, comment expliquer le fait que la laïcité est devenue un objet de polémique et que les accommodements, la souplesse dont le pouvoir politique ou normatif a pu faire montre au sein de notre République semble un lointain souvenir? Comment expliquer ce basculement?
Alors je crois que ce qu'on appelait tout à l'heure la nouvelle laïcité, c'est-à-dire ce moment où le principe de laïcité et la neutralité dans la laïcité devient imposé non plus seulement à la puissance publique, mais aussi aux personnes privées, est un moment auquel se superpose une rupture avec une interprétation libérale du régime de laïcité, interprétation libérale qui s'était ancrée sur l'essentiel du XXe siècle. Vous l'avez dit dans l'introduction, la loi de 1905, elle est adoptée dans un contexte conflictuel. Et on est seulement un an après la loi Combes, qui en 1904 avait interdit aux congrégations religieuses d'enseigner, qui avait causé l'exil de dizaines de milliers de congréganistes. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un moment de très forte conflictualité entre l'idée républicaine et les forces catholiques au début du XXe siècle. Mais ce qui est tout aussi notable, c'est que dès l'immédiat après 1905, l'interprétation du texte, et qui a été pour beaucoup une interprétation par le juge et en particulier par le Conseil d'État, justement parce qu'il y avait beaucoup de conflits, donc beaucoup de recours au juge, l'interprétation du texte, elle a assez vite été orientée de manière très libérale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Après la loi de 1905, il y a encore beaucoup de ceux qu'on appelait alors les laïcards qui essayent de continuer la bataille et qui prennent, des arrêtés municipaux qui interdisent aux cloches des églises de sonner, aux processions funéraires de se tenir dans la rue, etc. Le Conseil d'État, par une jurisprudence qui se déploie dès 1910-1920, va asseoir une interprétation libérale du texte. Et il va dire le principe de laïcité, c'est la séparation, c'est la neutralité de la puissance publique, mais c'est pas l'interdiction des processions funéraires. C'est pas l'interdiction des sons de cloche. Et pour les enseignants, c'est l'obligation de neutralité religieuse, mais dans l'exercice des fonctions. Et le fait que des enseignants de l'enseignement public aient par ailleurs, dans leur vie privée, des engagements religieux, ne saurait être retenu à leur encontre. Et donc, on a véritablement, et ça c'est, je crois, tout aussi important que de rappeler le moment conflictuel qui précède à l'adoption de la loi de 1905, on a vraiment une interprétation libérale, c'est-à-dire qui va essayer de faire en sorte que le principe de liberté soit toujours interprété de manière à restreindre le moins possible les libertés individuelles et singulièrement la liberté religieuse. Et de ce point de vue, je crois que ce que j'appelais tout à l'heure la nouvelle laïcité, c'est-à-dire la laïcité façon début 21e siècle, la laïcité comme pouvant générer des obligations de neutralité religieuse qui pèsent sur les personnes privées, eh bien marque une rupture avec ce paradigme libéral d'interprétation du principe.
Donc vous rappelez la matrice libérale qui anime le principe de laïcité consacré par la loi de 1905, et en même temps aujourd'hui on a l'impression que certains se saisissent du principe pour au contraire l'utiliser à des fins liberticides, notamment en matière de liberté de religion, mais aussi en matière de liberté d'association. Est-ce que ce spectre, cette menace, vous la percevez ou elle est exagérée ?
Alors, je crois que ça serait difficile de ne pas la percevoir. Je crois que tout observateur du débat public voit bien que le terme de laïcité vient être mobilisé sur une multiplicité de terrains. Que ce soit le port du burkini dans les piscines, le port des tenues à l'école, le port des tenues au travail, les repas dans les cantines scolaires, les affiches dans certaines municipalités, les minutes de silence à l'école. Il y a une multiplicité de questions sociales qui sont, dans le débat public, lues au prisme du principe de laïcité, et toujours la laïcité est mobilisée dans le sens de, comme un principe qui pourrait fonder des interdictions, des sanctions, de la répression.
Mais si on met les pieds dans le plat, ça concerne essentiellement des questions qui portent sur des publics musulmans. Et donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est la laïcité est un instrument qui sert à, à limiter la visibilité de l'islam et voire à discipliner les musulmans comme une espèce d'outil d'intégration, voire d'assimilation, en disant « bon, écoutez, tenez-vous tranquille, la loi, elle est là, respectez-la, et on va la durcir précisément pour vous faire rentrer dans le rang ».
Alors, évidemment, vous mettez là le doigt sur probablement la question la plus importante qui se joue autour des débats contemporains relatifs à la laïcité. Je crois qu'effectivement, c'est absolument incontestable que cette montée en puissance du thème de la laïcité face à toute une série de questions sociales est évidemment toujours en lien avec la visibilité de l'islam. Quand on fait des études contentieuses, si on fait par exemple, si on regarde véritablement le contentieux de la loi de 2004, à part les deux ou trois exceptions qui confirment la règle où la loi de 2004 a été appliquée à des élèves sikhs, on est effectivement pratiquement toujours sur un dialogue en fait entre la loi républicaine et en l'occurrence des élèves musulmans et à vrai dire des élèves musulmanes. Donc ça c'est le problème le plus difficile parce que en réalité l'inquiétude que l'on peut avoir c'est la mesure dans laquelle le principe de laïcité peut continuer à être à la hauteur du principe d'égalité comme principe républicain. L'inquiétude autour des usages et des effets discriminatoires du régime contemporain de laïcité, à mon avis, doit être très importante. Et j'en prendrai peut-être quelques exemples. C'est très frappant de voir que il y a certaines affaires qui ont pu être jugées qui continue de manifester, y compris sur la période relativement récente, une forme de conciliation facile entre laïcité et religion catholique. Alors même que tous les autres exemples montrent qu'il y a une conciliation très difficile entre laïcité et religion musulmane. Par exemple, il y a quelques années, en 2016, s'était posé devant le Conseil d'État la question de savoir si le fait pour des hôtels de département ou des mairies de placer des crèches de la nativité au moment de Noël dans l'espace public ou dans le bâtiment de la mairie était en contrariété avec la loi de 1905, avec le régime de laïcité. De manière tout à fait remarquable, le Conseil d'État a estimé que les crèches de la nativité avaient une pluralité de significations, que ce n'était pas qu'une signification religieuse, et donc il a par ailleurs pris le soin de fabriquer une solution extrêmement accommodante en disant que dans certaines conditions, selon que c'est dans le bâtiment public ou dans l'espace public, selon que la crèche renvoie à des traditions locales, etc., ça pouvait être toléré. Je trouve qu'il est absolument fascinant de voir qu'il est possible dans le discours du droit, dans le discours du régime juridique de laïcité, de dire qu'une crèche de la nativité a une pluralité de significations et la signification religieuse ne serait que l'une d'entre elles, alors que dans le même temps, par exemple dans le régime de laïcité scolaire, on va considérer que par exemple un bandana portée par une élève musulmane, la place en contrariété avec la loi de 2004.
Ou la baïa.
Ou la baïa, pour prendre un exemple plus récent, qui, par ailleurs, soulève la question de savoir quelle est la compétence du ministre dans un régime de séparation pour faire la liste des tenues qui sont religieuses par nature.
Et justement, derrière donc, le spectre liberticide, on a celui de l'arbitraire. On a du mal à imaginer l'impossibilité de l'arbitraire pour précisément trancher ce qui relève ou non du légal.
Je l'explique par un troisième élément qu'on pourrait rattacher à cette nouvelle laïcité scolaire, qui est donc voilà, des obligations imposées aux personnes privées, une rupture avec la philosophie libérale d'interprétation du régime de laïcité, et peut-être une troisième dimension de cette nouvelle laïcité scolaire, qui est une sorte d'hypertrophie du pôle neutralité religieuse sur les deux autres pôles. C'est-à-dire que de plus en plus dans les usages contemporains de la laïcité dans le débat public, on ne se réfère à la laïcité que pour se référer à des obligations de neutralité religieuse dont on a vu qu'elles étaient désormais imposées aux personnes privées. Et donc, cette composante neutralité de la laïcité prend vraiment le pas sur les autres et notamment sur la liberté et la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre le pas sur la liberté et la séparation ? Eh bien, ça veut dire que, en effet, la liberté religieuse n'est plus valorisée, protégée par ce nouveau discours de la nouvelle laïcité scolaire. Et ça veut dire aussi que, du coup, cette liberté religieuse, eh bien, on ne prête pas attention et donc on ne combat pas les usages inégalitaires ou discriminatoires qui en sont faits.
Et pour ouvrir sur des perspectives, est-ce qu'on peut imaginer au XXIe siècle retrouver un compromis qui serait équivalent à celui de 1905, c'est-à-dire qui mettrait en quelque sorte fin aux querelles sans fin dans lesquelles on se trouve aujourd'hui.
Moi, je crois qu'une des choses qu'il serait important de faire pour pouvoir avoir des perspectives plus positives, ça serait peut-être tout simplement de remettre la laïcité à sa place et de pas lui demander d'être la solution à toute une série de difficultés, depuis le défaut d'intégration sociale, à des questions sécuritaires, à des questions identitaires. La laïcité, si on la remet à sa place, encore une fois, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est le respect de la liberté religieuse et le respect égalitaire de la liberté religieuse, et c'est la neutralité des personnes publiques. Au-delà, je crois qu'on tord la laïcité dans des sens, c'est lui en demander trop que de lui demander de répondre à toutes ces questions sociales.
Ce podcast a été enregistré au studio La Seine. Il est produit par l'ACME et proposé par l'Obs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour partager votre avis et nous indiquer si vous souhaitez que l'on traite certains sujets dans les prochains épisodes. À très bientôt.